Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Duck Hebdo. Aujourd'hui, gros morceau. Ce sont des termes et une discussion qui reviennent chaque année à la même époque, sauf cette année puisque l'intersaison est un peu décalée. En tout cas, dans cette période autour de la draft, des transferts, des signatures de joueurs, de construction, de reconstruction d'équipes. C'est donc le grand débat sur les petits et les gros marchés. Et pour s'attaquer à ce gros morceau, et puisque c'est un sujet qui englobe plusieurs autres finalement, on a rassemblé donc l'équipe de notre petit marché à nous, chez Duck Hebdo. Et tout d'abord, celui qui est venu armé. Il nous a prévenu avant l'enregistrement. C'est un sujet qui l'inspire. On va vite voir ça. C'est Ben. Comment ça va, Ben ?
Ça va très très bien, Adrien. Puis honoré d'enregistrer avec Tom, surtout. Honoré.
Évidemment, c'est un honneur. On a notre expert des arcanes financières de l'NBA. Ça va pas être du luxe, à mon avis. Il y a évidemment une grosse dimension financière dans le sujet du jour. Donc, on va avoir besoin de ses lumières. C'est Tom. Ça va, Tom ?
Ouais, ça va et toi ?
Eh ben ça va très bien, écoutez, ravi. Gros sujet, messieurs, donc aujourd'hui, on a évoqué cette intersaison 2020 dans un double podcast, la semaine dernière, on vous invite à aller l'écouter d'ailleurs, et on s'est rendu compte qu'on voyait revenir une nouvelle fois sur la table beaucoup de débats, notamment les contrats signés par les joueurs, en sortie de contrat rookie par exemple, les extensions de contrat, le pouvoir grandissant de certains joueurs qui demandent des transferts, les choix de tanking ou non pour certaines équipes, tout ça. Donc on va s'attaquer au marché au pluriel de la NBA. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur YouTube. Tout va bien. Et puis on est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Hebdo, petit marché contre gros marché. La guerre des marchés en NBA, donc, c'est notre gros sujet du jour, messieurs. J'ai beaucoup parlé dans cette introduction, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous propose d'attaquer en définissant un peu ces termes ou redéfinissant ces termes, puisqu'on risque de beaucoup les utiliser, qu'on les entend aussi ici et là, et que finalement, la ligne entre un gros, un moyen, un petit marché, elle n'est pas forcément claire, si elle existe et si elle est pertinente. Donc, je vais commencer avec toi, Ben, pour avoir une base. Il y a plusieurs facteurs quand même qui sont généralement utilisés pour définir ces tailles de marché. Par exemple, chez Forbes, les équipes sont classées par valeur, avec notamment leur contrat avec la salle, les revenus générés, etc. Ailleurs, on parle aussi du marché télévisuel sur le bassin de population des équipes. Évidemment, il peut y en avoir d'autres avec tout un tas de nuances. Donc, peut-être pas seulement des gros et des petits marchés. Comment toi, Ben, tu vois cette notion en NBA ?
Totalement, je pense que tu as donné l'aspect central, c'est qu'en fait, derrière un terme gros petit marché qui revient de façon totalement habituelle et qui sont devenus des termes habituels pour les fans NBA, se cache en fait, tu regardes les discussions sur Twitter, tu vois que tout le monde y met un peu ce qu'il veut dans le marché, alors qu'en réalité, il y a une définition, et pour les ligues américaines, tu l'as dit, on parle de marché médiatique, media market, et ça se base sur une notion, c'est le DMA. Designated Market Area. Tom dit toujours que j'ai un accent australien, je vous laisserai juger. Est-ce que j'ai vraiment un accent australien ? En fait, qui est fourni par l'entreprise Nielsen, qui est une entreprise qui donne les audiences aux États-Unis, tout simplement. Et tu l'as dit, Adrien, tu as donné la réponse, tout simplement. Le marché, selon cette définition qui est utilisée par la NBA, c'est le nombre de télévisions par foyer, foyer avec une télévision dans une aire urbaine. Bon, on n'est pas des géographes, donc l'aire urbaine, elle est définie comme on veut. Puis tout simplement, ça te donne un classement des plus grandes métropoles aux États-Unis. Et c'est là où, selon moi, l'idée de gros marché et de marché petit marché est totalement explosée. C'est qu'en fait, quand on regarde ça, on voit qu'il y a deux, ce que j'appelle méga marchés, qui sont New York et Los Angeles. Et ensuite, il y a une ribambelle de d'autres marchés. Et peut-être que c'est pour ça que je dis souvent, moi, avec un petit peu de provoque, il n'y a pas de gros et de petits marchés. Parce qu'en fait, il y a deux méga marchés. Et ensuite, ça se tient plus ou moins. On pourra rentrer là-dessus. J'utilise le mot méga à Enfin, il y a une raison, je donnerai la parole à Tom ensuite. C'est parce qu'en fait, quand on regarde, alors c'est des définitions de l'ONU. L'ONU parle de méga cities, voilà, des méga villes. Il y en a deux aux États-Unis seulement, c'est New York et Los Angeles. Donc on est sur un autre ordre de grandeur. C'est pour ça que quand on te dit petit marché, grand marché, si on te propose Dallas, Los Angeles et Memphis, tu peux pas mettre ces trois équipes, tu peux pas réunir deux équipes dans la même catégorie. C'est pas le même ordre de grandeur. C'est pour ça déjà de base pour moi, on se base sur une mauvaise défi. On fait entrer dans le marché des choses qui sont plus grandes, on en parlera.
Oui, donc plusieurs catégories, on va peut-être pouvoir donner des sous-catégories également. Tom, est-ce que toi tu veux ajouter quelque chose à ces notions-là ?
Je pense qu'il y a effectivement, enfin, vous avez totalement, vous avez bien défini cadrer le sujet. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi auquel on, enfin quelque chose qu'on oublie généralement, c'est par exemple parler en fait à quel point le sport et le basket et la NBA est important dans le contexte du marché. Par exemple, Atlanta qui est une grosse ville, le basket, les gens s'en moquent quasiment. Donc certes, ça, certes, une grande ville au sens des États-Unis, donc ça peut être vu comme un gros marché entre guillemets, mais d'un point de vue basket, c'est pas le cas. Là où, par exemple, pour une équipe comme Toronto, c'est tout un pays qui est derrière, tu vois. Ou là où on peut pas parler d'un marché simple au sens de la franchise de Toronto, sachant que cette équipe-là, elle représente un pays et tout le Canada. Donc je pense que ce côté-là, c'est quelque chose qui est important dans la notion de marché et quelque chose aussi dont on parle pas forcément, c'est le côté historique de l'équipe. Enfin, et moi je parlerai même pas de marché, je parlerai même de franchise à l'intérieur d'un marché. Je parlerai plus de ça.
Ouais, c'est des notions qu'on retrouve notamment que j'ai pu voir moi chez Bleacher Report qui parle donc ce que tu disais de market competition, donc la compétition sur le bassin de population et le marché télévisuel avec les autres équipes de la ville notamment qui sont plus ou moins populaires selon les villes et comme tu disais la franchise NBA est pas forcément l'équipe prioritaire. Il parle aussi de team heritage, donc c'est ce que tu disais, l'histoire de la franchise, évidemment, donc les titres, les playoffs, les années aussi passées par cette équipe dans ce marché, puisque des fois les équipes changent de ville, ça peut être aussi important. Et puis ils utilisent aussi des notions de fan support, donc de remplissage de la salle, et ils ont un fan cost index aussi qui est assez intéressant sur le prix moyen d'un ticket avec bière, soda, une casquette. Et une place de parking, voilà, exactement. Donc,
ce qui est un point très intéressant dans le cas d'Atlanta, parce que Atlanta, et je reparlerai, moi, j'ai pas mal étudié le cas d'Atlanta. Atlanta est une franchise qui, historiquement, sur les dernières années, remplit plutôt mal sa salle, mais fait payer ses billets dans la haute moyenne de la NBA, en fait. Ce qui est intéressant.
Ouais, c'est des choix. Après, c'est des choix marketing. Et après, on peut rajouter d'autres notions ailleurs parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure, t'as cité une ville du Texas. Je sais plus laquelle, Dallas, je crois.
Dallas. Donc
on va aussi après parler des taxations qui sont plus ou moins intéressantes selon les villes, donc qui peuvent jouer. Il y a le cas particulier. Moi, il y a un cas particulier aussi, c'est Miami, qui est pas un énorme marché à l'échelle de la population, mais qui a cette espèce de dimension luxe, prestige au-delà du sportif. Donc là, ça fait tout un tas de catégories. Et je crois que toi, Ben, t'as découpé en six catégories. Comment t'as un peu découpé ton...
Alors, selon moi, on vous l'a dit, je suis venu armé. Moi, en fait, j'ai créé des critères parce que pour moi, le marché est un critère parmi tant d'autres. Moi, en fait, pour classer les franchises, j'ai six critères pour ensuite déboucher sur des catégories. Alors, j'ai ce que j'appelle des critères qui vont être inamovibles, qui bougent très peu. Le marché, alors celui-là, on l'a déjà expliqué, il y a ce que j'appelle le cadre de vie. Météo, taxes, réputation de la ville. Par exemple, Détroit n'a pas la même réputation en 1970 qu'en 2020. C'est des choses qui bougent très peu. Il y a aussi, Tom l'a dit, histoire de la franchise et son environnement sportif. Ce qu'il y a d'autres franchises de sport US. C'est ce qui permet, par exemple, de faire baisser un peu les Clippers face aux Lakers. Quelle est l'histoire de cette franchise, etc. Ça, c'est ce que j'appelle mes trois critères qui sont pratiquement inamovibles. Le marché va pas changer sur 10 ans. Il peut changer sur 100 ans. Donc, on a ces trois premiers ces critères-là. On a trois autres critères qui, eux, sont plus sportifs. Le propriétaire, capacité à dépenser, stabilité, etc. Très important. SO Houston. On voit que c'est vraiment important.
C'est très important.
Ensuite, on a le front office, expérience, capacité à attirer des jeunes joueurs, politique aussi. Parce que il y a un truc, moi, pour moi, une grande mésentente sur ce débat. T'as beau être les Lakers, si t'es en pleine phase de reconstruction, tu seras moins sexy que d'autres franchises qui sont en train de chasser le titre, en fait. On l'a vu, la Marcus Aldridge 2015. Passons. Et enfin, ce que j'appelle valeur de l'effectif. Je dis pas qualité, je dis valeur, parce que c'est sur le terrain, mais aussi de façon spéculative. C'est ce qui peut expliquer la venue d'un LeBron. Du coup, j'ai marché, cadre de vie, histoire de la franchise et son environnement, propriétaire, front office, valeur de l'effectif. Et de ça, je retire, ça me fait 4 catégories. Alors, quand j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'étais à la fac, je me tapais tous les bouquins sur l'histoire des puissances, etc. Donc, ça a influencé un peu ce que j'ai fait. J'ai super puissance, grande puissance, moyenne puissance, petite puissance. Parce que pour moi, il y a des gradations très intéressantes. Et voilà, ça me donne un peu ce classement que j'ai. Je vais pas le détailler, mais je pourrais l'expliquer sur les réseaux sociaux s'il faut. Mais pour moi, ça dépasse un peu le grand marché. Et surtout, je vous laisse la parole. L'avantage, c'est que ça bouge. Parce que on peut pas me dire que les Warriors de 2008, les Warriors de 2016 et les Warriors de 2020 sont dans la même catégorie. C'est trois temporalités différentes. Pareil pour les Lakers. Les Lakers ont beau être les Lakers de 2014 n'ont pas le même pouvoir que les Lakers de 2020. Donc voilà, j'aime bien le fait que ça bouge, tout simplement.
Ouais, juste avant de te laisser rebondir, Tom, du coup, Ben, j'imagine que pour faire la différence avec ce qu'on disait avant et les énormes marchés, New York, par exemple, n'est pas forcément dans ton tiers le plus haut, là, du coup.
Totalement, parce que du coup, alors New York, il y a eu 2-3 franchises pour lesquelles je galère toujours à les placer. Je pense à Milwaukee.
Forcément.
Milwaukee, c'est extrêmement difficile parce que d'un point de vue... marché, c'est-à-dire marché télévisuel, c'est petit, mais ils ont un propriétaire qui dépense, ils ont un gros effectif, ils ont un front office. Bon, ça se discute après ce qu'on a vu cet été, mais voilà. New York, par exemple, moi, à l'heure actuelle, c'est une moyenne puissance avec des attributs de super puissance. Si New York est bien géré, ils sont incroyables. Le problème, c'est qu'ils sont mal gérés. Ouais. Donc, voilà. Et je donnerai juste la parole. Moi, pour moi, ce débat revient parce que les États-Unis... Voilà, souvenez-vous de vos cours de terminale, hyperpuissance États-Unis 91. Pour moi, on parle de ça actuellement parce que les Lakers, toutes les planètes sont alignées. C'est le grand marché, le cadre de vie est incroyable, c'est probablement la franchise la plus glamour. Le propriétaire est prêt à dépenser, le front office a montré qu'il voulait gagner le titre et ils ont LeBron James et Anthony Davis. Ils sont au-dessus de la mêlée. Mais par contre, qu'on n'aille pas me dire que New York à l'heure actuelle est plus attractive que Miami, c'est faux.
Après, ils ont une histoire aussi pour te relancer, Tom. Je vais te poser une question. Est-ce que finalement, plutôt que parler là de marché, est-ce qu'on parlerait pas d'attrait d'une franchise à un moment M finalement?
Clairement, on parle de ça. Enfin, il y a Gilbert Arenas qui dans l'un de ses podcasts, le No Chill Podcast, qui expliquait quand un joueur signe par exemple dans une franchise, c'est pas que le joueur qui signe, c'est l'homme qu'il est et la famille qu'il a aussi. Donc il y a tout le dispositif qui va pouvoir influencer sa décision d'aller dans un marché entre guillemets ou un autre. Après t'as d'autres choses simplement pour ajouter à ce que Ben a dit. Je pense qu'il y a une notion de connexion avec la ville aussi qui est importante. À New York, je suis désolé. Brooklyn, je suis désolé. Tu vois, enfin même et si on prend l'exemple des Clippers à Los Angeles.
Et t'as envie de jouer aux Lakers.
Tu vois, même quand tu vois à l'époque de Lob City où les Clippers, c'était une équipe qui était potentiellement titrable avec Blake Griffin, puisqu'il y avait une grosse vague à l'époque. Hein. C'était Lob City, les Lakers, ils étaient un peu en dedans. Les gens ne juraient que par les Lakers, même s'ils étaient en difficulté. Donc, il y a aussi l'histoire de le côté connexion avec la ville. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, Mitch Kupchak, qui a signé le contrat des Wards récemment, qui lui, du coup, il parlait en 2018, il avait une interview dans ce qu'on appelle Open Court, donc c'est un setup d'ESPN, en fait, qui réunit plusieurs GM, et en fait, il explique que lui, en fait, il voit, entre guillemets, une légère différence, parce qu'il a été GM des Lakers, il est ici aussi GM des Hornets. Et il explique qu'en fait, que ce qui lui trouve qui change le plus, c'est la connexion avec la ville, parce que tu as besoin de faire beaucoup plus de choses socialement pour que ça fonctionne et pour que ça fonctionne dans un petit marché, entre guillemets, tu vas me dire que Charlotte, c'est pas non plus, c'est la Caroline du Nord, c'est pas non plus une toute petite ville, mais à l'échelle de la NBA, il s'est rendu compte que c'est vraiment très différent par rapport aux Lakers où, le simple côté branding, le simple côté branding rapporte pas mal de choses. Et là aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est que tu peux voir que qu'on parle de certains marchés, il y a des choses. Moi, je trouve que par exemple aujourd'hui, les Knicks, c'est un marché pour les joueurs qui est trop gros. Et je pense que personne ne va se risquer à aller aux Knicks dans le sens où, par rapport à l'historique de la franchise, personne ne viendra sans qu'il y ait d'assets, un peu comme LeBron James.
Mais est-ce que Tom, quelqu'un vient déjà de base, et Adrien aussi, Adrien, tu n'es pas que présentateur, est-ce que quelqu'un vient dans une... C'est pour ça, moi, je suis d'accord, par exemple, Charlotte, dans ma catégorie, moi, c'est petite puissance à l'heure actuelle. Enfin, ils ont beaucoup de trucs contre eux. Mais moi, ce que je... Selon moi, en fait, là où le désavantage il est total, c'est entre ce que je vais dire les superpuissances, qui pour moi se résument juste à New York, Los Angeles, qui ont trop d'attrait en fait, et aux petits qui sont allés Charlotte, Memphis, OKC, ouais. New Orleans, etc. Bref, je peux pas vous faire la liste. Le truc, c'est qu'en fait, de base, pour tout le monde, à part pour ces quatre grands-là qui ont des exceptions, on l'a vu l'année dernière, attirer une superstar de base, c'est très difficile et tu le fais rarement en free agency s'il y a rien de base en fait. Donc, est-ce que c'est pas non plus le proprio et New York, les Knicks qui sont, et moi, honnêtement, en faisant ce classement-là, je me suis dit, je suis fan des Knicks, c'est encore plus démoralisant de voir que t'as tout ce pouvoir-là et que t'en tires rien à l'heure actuelle.
Ouais, bah, justement, je pense qu'on a à peu près défini les termes sur lesquels on va discuter maintenant. Il y a toutes ces implications, tu disais. Donc, je pense qu'on peut commencer, notamment par cette histoire de signature à la free agency, en se focalisant. Là, on parle beaucoup de stars, mais dans un premier temps, je trouve que ça illustre pas mal. Et effectivement, New York, il y a, comme tu disais, tous ces facteurs sur le front office, sur la compétitivité sportive et sur l'héritage dont tu parlais, Tom, sur les 10, 20, 25 dernières années, c'est très compliqué à New York et forcément ça joue et ça met une grosse pression pour un joueur. Voilà, ouais. Tu évoquais New Jersey, Kevin Durant est finalement à New York entre guillemets, mais il a choisi New Jersey parce que le costume est peut-être
Brooklyn,
un peu trop grand. Ah, Brooklyn, pardon. Oui, c'est vrai qu'ils ont déménagé, j'étais au Nets. Ah, je suis revenu aussi dans le passé, moi aussi j'étais il y a 20 ans.
La dernière fois, les Knicks étaient bons. Ouais.
Donc il a choisi Brooklyn peut-être parce que le costume était trop grand, mais après il y a cet attachement à la ville aussi, je pense que c'est important. Alors c'était il y a quelques années, mais quand Carmelo Anthony demande son transfert à New York, après les résultats c'est autre chose, mais quand Carmelo Anthony décide d'aller à New York, c'est parce qu'il est de New York et que lui il veut relever ce défi-là.
Ouais, exact. Ça, c'est exactement.
Ça, c'est un rebond. Je te laisse la parole, Tom, mais ça, c'est un rebond très intéressant. C'est qu'en fait, c'est un peu le, comment dire, c'est pas ricochet, mais vu que New York et Los Angeles sont des méga-cities, pour reprendre cette expression-là, la plupart des joueurs de basket viennent de là. Quand Kawhi Leonard va aux Clippers, on dit pas, waouh, il a choisi les Clippers. On dit, il veut retourner à Los Angeles. Paul George
il
aussi.
Il veut retourner chez lui,
Kyrie aussi. Il y a ça aussi, en fait. Il y a un moment où faut comprendre. C'est pour ça que je reviens sur ce que dit Tom. C'est très vrai. La ville dans, c'est souvent la franchise dans le marché. C'est pas la franchise premier, le marché après. Parce que les Clippers, en soi, ils ont rien fait pour, même s'ils se sont remis avec le front office, etc., ils ont pas l'historique pour attirer deux gros joueurs comme ça.
Ouais, surtout que, enfin, les Clippers, faut pas oublier l'histoire récente et l'affaire Sterling. Faut pas oublier l'affaire Sterling. C'est quelque chose, l'affaire Sterling, ce qui s'est passé avec le côté Clippers d'Arel et tout ça. Ce sont des choses qui restent. Ce sont des choses qui restent et, enfin, c'est des choses qu'il faut pas oublier qui ont, je pense, qui ont joué contre les Clippers, puisque les Clippers ont longtemps été vus comme une franchise entre guillemets de la lose. Malgré qu'ils soient à Los Angeles.
C'est pour ça, Adrien, je suis désolé de trop parler.
Non, mais je t'en prie, t'es chaud, t'es armé, vas-y.
c'est pour ça, vraiment, pour moi, faut s'éloigner. Le marché, c'est quelque chose, c'est un élément de quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes au marché, les Clippers, ils ont la quatrième force de frappe de la Ligue. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Si tu prends en compte la place qu'ils ont à Los Angeles, si tu prends en compte l'histoire, etc., ils sont pas là, en fait. Là, le truc, c'est qu'on a ce débat-là parce que, alignement des planètes totalement incroyable. Les deux franchises des deux plus gros marchés de la ligue, donc les deux franchises de LA et les deux franchises de New York, ont eu du cap et la possibilité d'attirer des gros joueurs au même moment. Donc là, branle-bas de combat, ah là là, catastrophe. Les gars, ça pourrait être bien pire. Si les Knicks sont bien gérés depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on a les Knicks et les Lakers qui tuent tout, en vrai, si c'est bien géré.
Après, il y a quelque chose à simplement rajouter à ça, Ben. C'est simplement que, en plus de cet alignement des planètes, t'as Anthony Davis qui est l'un des plus petits marchés de la ligue, mais qui est une équipe qui n'est pas compétitive, ça les gens oublient de le rappeler, qui est une équipe qui n'est pas compétitive, qui se fait transférer aux Lakers.
C'est ça.
Et qui refuse d'aller dans une autre franchise. Donc là aussi, je pense que ça rajoute un peu d'eau au moulin du débat gros marché, petit marché. Mais pour moi, enfin, il n'y a pas vraiment de grosse différence dans la façon dont tu constitues ton équipe. Moi, je pense que la différence, c'est surtout au niveau de la marge d'erreur à laquelle tu fais face. Quand tu es dans un petit marché, entre guillemets, tu as une beaucoup plus faible marge d'erreur que quand tu es, par exemple, aux Lakers. On peut le voir. Les Lakers, OK, ils sont champions, mais les tours de draft, tout ça, le tanking entre guillemets déguisé pour ne pas enlever la protection du pick et drafter Russell, Ingram et Ball 3 ans de suite, ça c'est pas ce qui leur a permis d'aller au titre. Ça leur a permis d'aller chercher le joueur qui était coincé dans une autre équipe. Et du coup, comme c'est ce que Ben parlait, c'est ce dont Ben parlait, du coup, c'est l'attractivité de l'effectif. L'attractivité de l'effectif et la valeur perçue de cet effectif-là qui a permis cet enclenchement-là. Et on parle aussi de ça par rapport à la situation de Giannis qui est, lui, à Milwaukee. Et on voit qu'il y a que pas mal de franchises lui font des yeux doux. Et globalement, les franchises qui lui font des yeux doux sont dans des, entre guillemets, plus gros marchés que dans celui où il est aujourd'hui.
Ouais, je pense que ce que tu as bien illustré, c'est qu'il y a plusieurs points de vue sur ces petits grands marchés. On a beaucoup parlé du point de vue de la star qui rejoindrait du franchise player, de appelez-le comme vous voulez, donc de Giannis, de LeBron qui lui décide de faire un petit ou un gros marché, c'est un peu un cas à part. Et eux, ils ont plusieurs critères. On a parlé donc du prestige, du retour à la maison, du rôle éventuellement. Tu vois, t'évoquais Kyrie tout à l'heure, Ben. Kyrie qui a donc gagné avec LeBron puis qui a voulu partir dans un premier temps pour redevenir l'alpha dog comme on dit, donc le joueur majeur. Puis il y a aussi rejoindre les copains, on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dernièrement, c'est plus ou moins critiqué mais c'est des choses qui arrivent. Il y a l'histoire de prestige personnel sur sa carrière, c'est le cas pour LeBron notamment parce que quand il rentre à Cleveland, ce choix là c'est de rentrer à la maison mais ceci de gagner chez lui. Il y a ces notions qui existent aussi pour Kevin Durant après ses titres à Golden State qui sont décriés, donc il veut prouver qu'il peut gagner ailleurs. Donc ça c'est tout un de critères pour les gros joueurs de la ligue qui vont eux influer ensuite sur cette attractivité de l'effectif, parce qu'effectivement les Lakers avec Anthony Davis c'est pas la même chose qu'avec sans rien leur enlever Ingram, Ball, etc. Et donc là, du point de vue, si on se place du point de vue du front office ou de la construction, reconstruction, appelons-la comme on veut, des équipes, et donc des second couteau, on va dire, donc de cette fameuse free agency où il y a des gens qui vont, des joueurs qui vont baisser leur salaire peut-être pour jouer à tel ou tel endroit, pour les extensions de contrats. Là aussi, les petits marchés, souvent on critique des contrats où des joueurs sont surpayés entre guillemets. Effectivement, cet attrait-là, il joue aussi sur des plus petits joueurs. Et quand tu dois construire ton effectif, tu passes pas forcément par le tanking. Si tu veux passer par la free agency, t'as des contraintes quand t'es un marché moins attrayant, on va dire, par rapport aux termes qu'on utilise, qui sont bien différentes et qui là ne dépendent plus que simplement que de la star qui veut venir ou ne pas venir.
Après, je pense que c'est... Parce que... Je t'en prie, Tom. Vas-y.
Non, vas-y.
Je pense que c'est des problématiques après qui s'appliquent à très peu... Il y a qui, concrètement, qui a un pouvoir de frappe totalement disproportionné en free agency? Il y a les Lakers. Visiblement, il y a les Clippers. Les Nets, ça, c'est très récent, hein, parce que je vous dis ça, il y a 10 ans, oui, on rigole. Récent. Et Miami, ouais. Qui serait une exception parce que ils sont 15e au niveau du marché télévisuel, mais le cadre de vie, la franchise fait que voilà, ils tapent beaucoup plus haut que...
Et eux, c'est décorrélé d'un gros joueur, d'un gros franchise player, contrairement aux autres équipes là que tu viens de citer.
C'est ça. En plus. Par contre, ensuite, moi, quand je fais mes super puissance, grande puissance, moyenne puissance, petite puissance, en soi, je trouve que dans cette façon de réfléchir là, il y a que les petits qui sont vraiment. Je trouve pas, par exemple, que je classe actuellement comme moyenne puissance, je suis désolé Adrien, Chicago, je trouve pas qu'ils sont désarmés par rapport
sur
à ça.
Sur le marché, ouais.
Parce qu'en fait, moi, vu que je vous avez compris, j'abandonne complètement l'idée de gros petits marchés. Enfin, Chicago, en soi, Chicago, selon moi, n'est pas désavantagé par rapport à ça. Sans oublier, enfin, que la free agency, par définition, par essence, tu surpayes. Donc, que tu sois grand ou petit, tu surpayes, en fait. C'est la loi du marché. Ça va être des enchères et tu vas surpayer. Donc, c'est un argument sur lequel je suis pas vraiment d'accord, en fait. Parce qu'il y a très peu de franchises qui ont un pouvoir de frappe pour s'en détacher complètement de la free agency et tout miser là-dessus.
Avant de te relaisser parler, Tom, je suis désolé, mais vu qu'on est sur Chicago, ça m'a trigger un peu, forcément. Justement, on rejoint justement tes critères, Tom, parce que Chicago, il y a ce côté gros marché, puisque c'est quand même un gros bassin de population au niveau télévisuel avec l'indice Nielsen, le fameux. On a un gros marché, il y a un gros héritage. C'est une équipe où porter le maillot des boules, c'est un prestige, notamment sur cette génération qui a vu Jordan, peut-être de moins en moins, puisqu'on avance quand même dans le temps. Mais il y avait, c'est le front office qui mettait un gros frein ces dernières années parce que justement, Gar Forman et John Paxson n'étaient pas gage de, je sais pas, de confiance en tout cas pour les joueurs semble-t-il. Là, ça va peut-être changer, mais c'est là où effectivement on voit qu'il y a tous ces critères-là s'ajoutent. Chicago, il y a oui le prestige, le gros marché, mais ça ne suffit pas pour faire une franchise attrayante de manière intemporelle.
Mais surtout Chicago, il y avait aussi le propriétaire qui refusait de mettre de l'argent.
Surtout, ouais.
Puisque on peut le rappeler, on peut, c'est, voilà, c'est ça. On parle beaucoup du propriétaire comme étant un des avantages majeurs dans le sport professionnel et encore plus en NBA, notamment par sa volonté, enfin sa possibilité de dépenser de l'argent et aussi le fait de pouvoir imposer à son front office une timeline cohérente par rapport à l'objectif final. On voit ce qui se passe avec Atlanta cette saison. On voit ce qui se passe avec Atlanta cette saison. Schlenk, tu sens qu'on lui a dit si on fait pas les playoffs cette année, t'es vieux. tu sens
une
clairement
que c'est ce qui ça ressemble
passé.
À ça.
Il y a une petite pression. Il y a une petite pression. Et en fait, pour parler de Chicago, si on va sur le ce qui a poussé Chicago à faire une reconstruction, c'est de ne pas vouloir donner le supermax à Jimmy Butler. Donc, il a été transféré et ça a déclenché la reconstruction que Gar Forman et John Paxson ont appelé « the rebuild on the fly ». C'est-à-dire que les mecs ne voulaient pas payer le super... Et c'est ce qui s'est passé à Sacramento. On voulait pas payer le supermax à DeMarcus Cousins. Ils ont totalement raison de réagir comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé le transfert du meilleur joueur de l'effectif. Et du coup, tu passes sur un processus de reconstruction. Pourquoi? Parce que le processus de reconstruction, ça te permet de faire miroiter quelque chose de meilleur que ce que tu as. Et aussi, ça t'achète du temps et ça te permet d'économiser de l'argent. Oui, tout simplement.
C'est tout le problème du propriétaire. Après, on passera à autre chose que les Bulls peut-être, mais Reinsdorf, donc qui est connu pour être un peu une pince, mais qui est aussi propriétaire des White Sox à Chicago, et on sait qu'il préfère il préfère son équipe de baseball à son équipe de basket. Et effectivement, il y a ce déclenchement que tu disais avec Jimmy Butler pour la reconstruction, mais là il y a le changement de front office aussi parce que lui, il voit arriver, il y a eu une certaine gronde, on va dire, des fans, la salle qui est pourtant une des plus remplies habituellement de la NBA, ouais, du côté de Chicago, ouais, qui a commencé un peu à baisser en termes de taux de remplissage, et là, ça l'a poussé à réagir d'une manière autre, mais effectivement, le propriétaire peut être un très gros facteur, et son entente aussi avec le front office, et éventuellement les joueurs, avec notamment le Carden que tu évoquais tout à l'heure, qui finalement, lui, était en bon terme avec son GM, qui s'est retrouvé... dans la conférence Est, et du coup, on a une demande de transfert du côté de James Harden.
Pour moi, l'exemple le plus éclatant, c'est parmi ce que j'appelle mes petites puissances, vraiment mes petits poussés, si on était en Coupe de France, New Orleans. Il y a le cas de New Orleans New Orleans, c'est très intéressant quand on fait une comparaison NBA-NFL. En NFL, les Saints, ça fait 10 ans qu'ils sont parmi le gratin, et qui, quand je vous dis exploser le salary cap, l'année prochaine, ils ont 100 millions de trop. C'est-à-dire qu'ils vont devoir couper la moitié de leur effectif. Oui, Tom, c'est une réalité. Non. Ils ont 100 millions de trop.
Ils savent pas quoi en faire.
C'est les Warriors, quoi.
Et en fait, New Orleans, c'est une franchise en NFL, les Saints, qui attire, parce que déjà, c'est une partie des États-Unis qui est très, le penchant est affirmé pour le football américain. Et aussi, du coup, les Pelicans ne pèsent pas. C'est pour ça que l'argument du petit marchand en soi, c'est pour ça que moi, je veux m'en écarter, parce qu'en fait, les Saints, en football américain, New Orleans joue dans un petit marché, mais c'est une grande puissance. Par contre, ouais, tu peux faire difficilement plus petit que les Pelicans en NBA. Et c'est de la volonté du proprio, parce que je rappelle, c'est le même propriétaire pour les deux franchises. Donc, on voit bien le niveau d'intérêt. Donc, voilà.
C'était aussi le même staff médical.
Aussi, ouais. Bravo.
C'était gratuit, merci beaucoup. Mais effectivement, New Orleans, qui est un des plus petits marchés à l'échelle télévisuelle dans la NBA, c'est peut-être le plus petit d'ailleurs. Je l'ai plus sous les yeux, mais en tout cas, c'est un des plus petits, c'est sûr. C'est un des top 3
c'est
en
avec
bas.
C'est avec Charlotte et Memphis.
Effectivement, avec Memphis. Ouais. Mais du coup, se pose aussi une question, parce que là, on parle donc de l'attractivité sur une free agency, et on a un peu évoqué comme ça de la construction, de la reconstruction, parce que cette notion de marché, de gros marché, amène un déséquilibre d'une certaine façon. Alors, pas forcément toujours les mêmes équipes, comme tu disais, Ben, ça peut fluctuer, mais il y a un déséquilibre en NBA, puisque certaines équipes attirent plus facilement de bons joueurs. Une des solutions normalement utilisées dans les ligues fermées américaines pour rééquilibrer leur ligue au fur et à mesure, c'est la draft. Et on retrouve cette question des contrats en sortie. Alors, il y a la sortie des contrats rookies, où il y a beaucoup de joueurs qui signent des contrats très élevés, puisque les équipes veulent les garder, ils ont les droits dessus, elles ont l'avantage dessus. Il peut y avoir une première logique. Et ensuite, on va avoir soit une critique pour des joueurs trop payés, soit ensuite au prochain contrat, où tu le disais, Tom, donc je vais te laisser un peu développer, où c'est le premier moment où le joueur peut, lui, enfin décider de son sort, si on veut. Et là, c'est plus compliqué pour certaines équipes que pour d'autres de garder leurs joueurs.
Ouais. Bah après, c'est tout part de la volonté, de ton objectif final en tant qu'équipe. Il faut s'enlever de la tête que toutes les franchises joue le titre et que toutes les franchises veulent jouer le titre. La NBA, c'est pas que du sportif, c'est un business. Il faut s'enlever de la tête que tous les propriétaires veulent gagner le titre. T'as des propriétaires qui veulent gagner le titre et qui sont prêts à faire les sacrifices pour gagner le titre, et t'as des propriétaires qui veulent avoir du succès et gagner de l'argent. Tout simplement. Et ça, c'est pas la même logique que tu dois avoir, sachant que quand tu prends, par exemple, aujourd'hui, pour gagner le titre, il y a quelque chose qui est récurrent. Il faut que tu aies un joueur qui ait déjà été MVP au moment où tu gagnes le titre, et il te faut un top 5 joueur de la ligue, hormis les Pistons. Quand tu reprends toutes les équipes titrées, à part les Pistons de 2004, toutes les équipes ont soit un joueur qui a été déjà MVP, soit ils ont un top 5 NBA. Aujourd'hui, si tu veux un top 5 NBA, t'as trois moyens. T'as la draft, t'as par trade, t'as la free agency. Le problème, c'est que pour faire des transferts pour ce type de joueurs-là, il faut des assets. Donc, il faut pouvoir en générer. Le deuxième problème, c'est que tu récupères rarement, enfin, t'as très rarement un top 5 NBA sur le marché. Comme Ben, t'as très rarement un top 5 NBA sur le marché. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la draft. Et du coup, c'est pour ça qu'on assiste, je pense, à, tu vois, une ruée, le tanking, et tout ces
process.
On assiste à une ruée vraiment pour maximiser tes chances à la loterie, pour récupérer le talent sur lequel tu auras la main le plus longtemps possible. Parce que comme tu l'expliquais, quand tu as aujourd'hui un rookie qui arrive dans ta franchise, donc tu as le rookie scale, qui est le contrat que tu signes quand tu es un premier tour de draft. Donc du coup, tu as 4 ans. Entre guillemets, au rookie scale, avec des options d'équipe, mais généralement, les options sont activées. Et après, tu as le moment où tu arrives à la 4e année de ton contrat. Soit tu peux prendre refuser une prolongation et prendre ta qualifying offer pour être libre. Ça, c'est quelque chose qui arrive très rarement. On l'a vu. Le dernier cas qu'on a vu, c'est Greg Monroe, qui avait refusé la qualifying offer à Détroit, puisque on lui avait ramené Josh Smith, il y avait André Drummond.
En quelle
époque. Et du coup, il a décidé de partir, voilà. Il a décidé de partir à Milwaukee en tant qu'agent libre. Ou sinon, tu vas te retrouver à signer une prolongation de contrat de 4 ou 5 ans, ça dépend des options. Ou sinon, on peut te permettre du coup de rentrer, tu vas te permettre peut-être de rentrer sur le marché un petit peu plus tôt et d'avoir une option et d'avoir ta liberté entre guillemets un peu plus tôt. Et c'est là, en fait, c'est au moment du second contrat, c'est la première fois que le joueur peut décider de lui-même et que le joueur est libre, vu que le contrat, il est dans son prime. Et c'est pour ça que quand des grosses stars d'effectifs partent, ça fait énormément de mal, puisque les joueurs qui partent, ils sont dans leur prime, mais c'est la toute première fois qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, en fait.
Donc, il y a une notion un peu... voilà, souvent c'est reproché de pas être loyal, etc. Mais la question, c'est est-ce que ces histoires de supermax avec l'équipe qui t'a drafté, est-ce que c'est suffisant pour toi, Ben, pour rééquilibrer ces équipes à ce moment-là? Parce qu'au moment où les joueurs ils font ce choix, justement, que tu disais, leur première liberté, Tom, généralement vont là, à ce moment-là, va rentrer en compte ce que tu disais, la famille, l'attachement à une ville, une zone. Après, ils sont là depuis longtemps, donc des fois ça peut suffire, ça peut aider, mais il y a aussi peut-être rentrer chez soi, la compétitivité, peut-être maximiser aussi parce qu'il y a différentes durées de contrat, etc. Il y a plein de notions. Est-ce que les solutions sont suffisantes pour essayer de rééquilibrer au mieux, en tout cas, la ligue?
Le problème, c'est qu'on a à chaque fois qu'on la ligue essaye de mettre quelque chose en place, ça lui retourne comme un boomerang dans la tête, supermax, etc. En fait, dès qu'il y a un grand chamboulement, on essaye de mettre quelque chose en place. Et le problème, c'est que ça ne répond pas, en fait, parce que selon moi, je vais vous harceler avec ma typologie. Souvent, le problème vient souvent quand le mec part de ce que j'appelle vraiment la petite puissance, le tout bas, vers le haut. C'est là où se pose le problème. Quand il part de Charlotte, quand le mec part d'OKC, quand le mec part de New Orleans, là, se pose le problème. Parce qu'en fait, on est sur des franchises où, oui, il faut garder une certaine compétitivité par rapport au marché, même si ça se discute. Par contre, moi, c'est là où je suis moyennement d'accord par rapport à ça, c'est que on a un exemple d'une franchise, ça fait bien 20 et quelques années qu'ils font tout le temps les playoffs, et ils ont perdu leur superstar il y a peu de temps, c'est Indiana. Et Indiana prouve qu'en fait, tu peux toujours continuer à rester compétitif. Alors, pas gagner de titre, rester compétitif, faire les playoffs en perdant ta superstar. Donc, mon problème, c'est que qu'est-ce que tu peux mettre en place comme mécanisme pour les forcer? Tu fais des contrats plus longs? Non. Enfin, les joueurs vont demander leur trade, de toute façon. Si tu mets des contrats plus longs, ils vont demander leur trade. Donc, selon moi, en fait, il n'y a pas de solution. Il faut juste il faut juste, c'est, en fait, il faut arrêter de se voiler la face et croire que la NBA est par essence égalitaire. Non, parce qu'en fait, quand t'as une franchise à Charlotte et une à Los Angeles, non, ça sera pas égalitaire. Après, je reviendrai juste sur Tom. Tu parlais de l'exception de Détroit des milieu des années 2000. On est à une période où Détroit, San Antonio et Cleveland sont dans le gratin de la NBA. Je crois pas que ça soit Walibi Schtroumpf, tu vois. Enfin, donc voilà.
Mais ils ont des top joueurs NBA.
C'est ça.
Enfin, tu vois, les Cleveland et San Antonio, ils ont des top joueurs NBA. Et San Antonio, tu vois, ils ont plusieurs Hall of Famers.
Exactement.
Même des Hall of Famers qui sont été cherchés loin dans la draft aussi, tu vois. Donc, ça, c'est toute une technique. Simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par rapport,
c'était sur Indiana que je t'ai vu dodeliner de la tête, Tom,
oui.
Je crois.
Par rapport à Indiana, c'est que le propriétaire, et c'est l'une des raisons pour laquelle Larry Bird a été viré de son poste de GM, ou du moins politiquement a été remercié et a décidé de laisser la place à Pritchard, c'est qu'en fait, lui, il a dit clairement, il a un cap sur ce qu'il a le droit de dépenser dans cette équipe-là. Donc, et on le voit. Et une notion qui est importante, la NBA veut essayer de faire comment ça s'appelle?
Ah, on sait pas où tu veux en venir, ça va être compliqué de trouver le mot de vocabulaire.
Juste pour, en laissant Tom réfléchir, du coup, si je peux juste répondre, c'est qu'en fait, selon moi, ces équipes qui sont des marchés moyens, je pense à Indiana, j'ai mis aussi par exemple Portland, j'ai mis Utah même là-dedans. En fait, elles ont des possibilités de pas reconstruire parce que en fait leur situation font qu'au niveau de la salle, etc., il y a un fort attachement de la région à eux. Donc en fait, ils ont pas de problème. Là où Cleveland, on a vu que en 3 saisons, ils sont passés de 100% de remplissage de leur salle à 99, l'année dernière 91. Si ça continue comme ça, ils seront une des salles les moins remplies. Donc, selon moi, en fait, l'idée selon laquelle tu as autant de possibilités sur ta reconstruction, ça dépend vraiment. Il y a des, ce qu'on appellerait communément, et là où je suis pas d'accord, des petits marchés qui, en fait, ont beaucoup de latitude, là où d'autres, par exemple, les gars reconstruire aux Lakers, c'est une catastrophe. T'as pas le temps. Les gens, tu fais pas les playoffs pendant 2 ans, c'est une révolte. Donc, faut faire attention par rapport à ça.
Ouais, les attentes sont pas les mêmes, et puis il y a l'attachement, il y a l'objectif, comme disait Tom, c'est-à-dire qu'il y a certaines équipes aussi à Indiana, si, comme tu le dis, tu peux te contenter, si tu fais les playoffs chaque année, que t'es à peu près compétitif, finalement t'es pas si mécontent que ça. À un moment donné, sur un malentendu, tu vas peut-être pouvoir atteindre les finales de conf, et là tu seras très content, voire un peu plus, on leur souhaite en tout cas, et tu seras très content. Mais si pendant quelques temps tu fais pas les playoffs, c'est pas gravissime, alors que quand t'es les Lakers, comme tu disais, ou peut-être Boston, enfin en tout cas les équipes historiques, hormis New York, donc maintenant, c'est plus compliqué si tu passes beaucoup d'années de disette, entre guillemets. Mais quand vous avez évoqué les Spurs aussi, il y a un sujet intéressant, c'est parce que dans cet attrait-là, on a beaucoup parlé de la notion financière pour les joueurs et des choix, donc souvent le choix est fait de quand même de prendre l'argent, on va dire, un maximum de sécuriser dès qu'ils peuvent, et ça peut se comprendre tout à fait. Mais quand les Spurs ont eu une forme de domination, on va dire, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, et avec leurs 3 Hall of Famers, les fameux, il y a aussi ces gars qui décident, alors pour différentes raisons, certes c'est un petit marché, mais pour d'autres raisons, ils décident d'avoir un salaire peut-être un peu moindre pour pouvoir laisser la marge à l'équipe de construire un effectif qui reste compétitif. On l'a aussi vu dernièrement à Golden State, aux Warriors. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut...
J'ai vu Tom qui
a sauté comme ça. Vas-y, Tom, je t'en prie.
À Golden State, je sais pas qui a fait des sacrifices financiers.
Oui, non, finalement, c'est vrai qu'il a...
Personne n'a fait de sacrifices financiers. Et Thompson a pris le max, Draymond a pris le max, Curry, son contrat était...
Oui, c'est que Curry, oui, c'est vrai que c'est dans l'autre sens. C'est Curry avait un petit contrat à cause des blessures.
C'est peut-être au niveau,
Des rôles. Là, c'est plus au niveau des rôles.
Voilà.
Mais c'est vrai que les Spurs, c'était financier, et là, c'était plus au niveau des rôles. Mais en tout cas, voilà, c'est... Techniquement, San Antonio n'est pas un gros marché. Alors, il y a quand même les taxations du Texas qui peuvent être intéressantes quand même pour les joueurs. Voilà, mais d'un côté audience TV et prestige, San Antonio à ce moment-là, c'était pas non plus extraordinaire.
Totalement. Mais c'est ça. Après, c'est la difficulté sur ces équipes-là, puisque la NBA se veut être quand même un système plutôt équitable entre guillemets. Mais faut pas oublier que l'équité, c'est une inégalité en fait. Et c'est pas pour rien que le propriétaire des Lakers il débourse 3 milliards, et le propriétaire de Charlotte il débourse. Ouais. Voilà, ce sont des franchises, mais les franchises n'ont pas le même prix. Et quand tu achètes la franchise dans son marché, dans sa globalité, tu achètes aussi les avantages qui vont avec. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de logique. Il faut pas qu'on fasse semblant de, tu vois, le truc, c'est que on veut se dire, en tant que fan NBA, que toutes les équipes ont les mêmes chances de pouvoir gagner.
C'est faux.
La vérité, c'est que c'est faux. Mmh. Et il faut qu'on accepte de vivre avec ça, en fait. Puisque la vérité, c'est que c'est faux. Il faut pouvoir admettre que, tu as plus de chances de gagner dans un certain environnement que dans un autre, puisque encore une fois, pour être un champion, il faut faire énormément de choses bien, et plus tu as de la marge pour faire ces choses-là, plus tu as de la marge d'erreur pour faire ces choses-là, mais plus tu as la chance d'arriver à ton but final. Et il faut aussi arrêter d'oublier que, comme Ben aime souvent le rappeler, tous les acteurs ne sont pas logiques.
Ah.
Ouais. Il faut pas oublier que tous les acteurs ne sont pas logiques, et la raison pour laquelle une équipe va vouloir reconstruire ou pour laquelle une équipe va signer un joueur beaucoup plus haut que sa valeur sur le marché est différente de laquelle, pour laquelle un joueur peut refuser un contrat peut-être à 10 millions pour signer au minimum autre part.
Il y a plein de paramètres, l'agent, etc.
Il y a beaucoup plus de paramètres.
On a des exemples, en fait. On a des exemples récents qui montrent que, KCP, enfin, on donne souvent cet exemple, qui refuse une extension à Détroit parce que, enfin, bref, il y a beaucoup d'exemples. Et c'est là où moi, selon moi, je veux vraiment m'éloigner de cette notion de marché. C'est qu'en fait, je trouve que le marché est juste une composante de tout, en fait, qui amène le choix du joueur. Il y a beaucoup de composantes. Et, donc sur ce point-là, il y a des inégalités qui vont toujours exister. Los Angeles restera Los Angeles. Par contre, que Charlotte n'aille pas sortir cette excuse-là, quand ça fait 10 ans que tu as des choix de draft pas forcément inspirés, quand tu payes surpaye Gordon Hayward, etc. Là, c'est pas le marché. Il y a aussi des notions de front office. Oklahoma City a 10 ans de bon rendement NBA parce que c'est bien géré, par exemple. Et là où ne marche pas l'argument des manques d'attirance pour les free agents avec Oklahoma City, c'est qu'ils ont déjà deux top 7-8 NBA, en fait. Ils ont pas besoin d'attirer. Enfin, tu vois, sur Twitter, je voyais beaucoup ces derniers temps, ah, on a attiré tel et tel joueur. Oui, sauf que déjà, c'est pas prendre en compte les trades qui sont importants, et surtout, c'est pas prendre en compte, bah oui, si t'as une des meilleures,
ce que t'as déjà dans l'effectif, ouais.
Si tu vas attirer personne, en fait, c'est logique. Donc, en fait, pour moi, c'est trop facile d'utiliser ça comme bouclier. On a l'exemple sur Antonio. On a Memphis aussi. Memphis qui fait un bon run de 7-8 ans très solide. Et c'est là où faut voir qu'aussi la NBA a un intérêt financier. On a toujours les Knicks à Noël, les gars. Alors que, on n'a jamais eu Memphis à Noël. Alors que Memphis est sur la,
même
sur
les 15 était bonne.
Ouais. L'équipe était bonne les 15 dernières années. Alors par contre, à Noël, on a toujours les Lakers, même quand ils font rien. On a toujours les Knicks, Boston, etc. On a souvent les mêmes équipes. Il y a l'intérêt financier derrière.
Voilà. Oui, parce que cette inégalité, c'est une vérité statistique, finalement, ce que vous évoquez depuis tout à l'heure. Si on prend, parce que quand même, ça fait quelques années que la NBA est une compétition, elle existe, voilà. Et effectivement, ça ne peut pas être un hasard sur cet échantillon. Alors, il n'est pas énorme non plus, mais quand même, on le voit bien qu'il y a des équipes avec énormément de titres. Et ensuite, on a des exceptions, comme tu disais, c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'es un petit marché, t'as peut-être des désavantages, mais il va y avoir un titre par-ci par-là pour des plus petites équipes, comme Cleveland il y a quelques années, où effectivement il faut une certaine conjoncture, forcément il faut que t'aies des choses qui aillent dans ton sens, que les planètes s'alignent, mais ça ne peut pas être, ce n'est pas une fatalité non plus, statistiquement ça se voit sur l'ensemble de l'histoire de l'NBA.
Puis beaucoup, on parle beaucoup à des grosses villes qui ont des titres, c'est aussi parce qu'ils sont là depuis le début, hein. Je veux dire,
oui,
Miami.
Quand il y a cette équipe, c'est plus simple de gagner que quand il y en a 30.
Les gars, comparer comparer les titres de Miami et New York et comparer le temps de passer en NBA, en fait. Hein. Le ratio, il est terrible pour les Knicks quand tu calcules.
clairement. Ouais, un peu comme les Celtics, hein, les fans des Celtics. La plupart des fans des Celtics, ils ont vu quoi, peut-être un, deux titres.
C'est ça.
Sur l'ensemble, oui.
Et dans ce temps-là, Miami en a gagné plusieurs, San Antonio en a gagné plusieurs, voilà quoi. Enfin, OKC a fait une finale NBA, enfin, Détroit a gagné un titre, enfin, tu vois, il se passait des trucs, en fait.
Donc,
pour moi, en fait, c'est une partie je me répète, hein, c'est une partie de l'équation, mais on ne peut pas s'en servir comme bouclier, en fait. Surtout dans une NBA où je trouve quand même que globalement les front office sont plus en plus fort. Enfin, c'est fini l'époque des mecs en tongs. Enfin, voilà, il y a quand même une montée de gamme. Et ben, je trouve que là, du coup, c'est là où, comme Tom, tu parlais, avec les Bucks, ça joue sur des détails. Mais c'est un petit détail de voir un front office de grosse qualité, comme on peut l'avoir au OKC, par exemple. Tu vois, ça fait une différence. Au OKC, il y a quand même Paul George et Chris Paul qui ont accepté de venir dans le fin fond de l'Oklahoma, les gars. Donc qu'on me sorte pas que
enfin Paul George qui a re-signé à OKC.
Il a
re-signé OKC sans prendre de meeting.
Donc en fait, il faut pas non plus juste regarder qui on attire en free agency. Je rappelle que la free agency de Kevin Durant d'après les bruits, Al Horford était prêt à venir en fait hein. Al Horford qui aurait été pour beaucoup de grosses franchises la plus grosse signature de la période.
Deuxième meilleur contrat hein, Al Horford de cette Free Agency 2016. Deuxième, enfin quand tu regardes ouais, tout ce qui a été signé, probablement le deuxième meilleur contrat à l'époque en termes de production du joueur en 2016 juste derrière Kevin Durant.
Donc voilà. Enfin,
Justement, je pense que pour aller en direction de la fin de ce podcast, on peut faire un peu de cas appliqués. Je pense que ça peut être intéressant. Là, on a défini toutes ces choses sur l'histoire, sur les termes utilisés. Revenons en 2020-2021. Alors, il y a un cas pour commencer, mais on pourra peut-être en faire d'autres. Le cas qui agite toute la NBA, c'est le cas de Giannis d'ici à l'année prochaine, le cas Milwaukee. Donc, question simple, Tom, tu es Giannis Antetokounmpo. Qu'est-ce que tu préférerais faire comment tu vas faire ce choix? Quels facteurs vont avoir plus ou moins d'importance pour toi en 2020-2021 plutôt?
Moi, franchement, si je suis Giannis, je signe pas l'extension de suite puisque je peux avoir exactement la même chose à la fin de la saison et je préfère me laisser mes options ouvertes tout simplement parce que je peux peut-être avoir envie d'autre chose. Peut-être que je vais gagner le titre à Milwaukee cette saison et je vais me dire j'ai gagné le titre, je peux m'en aller en paix tranquille, ou j'ai gagné le titre, on essaye de faire le repeat, pourquoi pas. Moi, franchement, vu que c'est un joueur qui contractuellement, il aura exactement la même chose s'il se casse la jambe. Je demande pas ça pour lui, hein. Mais s'il se blesse, il joue pas une minute de la saison. À la fin de l'année, il aura quand même son super max sur la table. Donc moi, je me laisse mes options ouvertes puisque j'ai rien à gagner à prendre ça tout de suite. Si ce n'est peut-être enlever de la pression autour de moi, enlever de la pression sur mes coéquipiers. Mais après, t'as Milwaukee, tu vois, enfin, en termes de pression médiatique, est-ce que tu vas quitter, est-ce que tu vas pas quitter, tu vois, t'es pas à New York, entre guillemets, enfin, en termes de pression médiatique, c'est pas la même chose. Donc, moi, je pense que je garderai mes options ouvertes, mais c'est vrai que c'est dur de passer sur 228 millions.
Il y a la pression médiatique,
c'est pas mal, c'est comme argument. C'est difficile, hein.
Il y a la pression aussi sur le front office. On l'a vu, là, ça bouge à Milwaukee. Ouais. Du côté du front office aussi, ils ont un semblant de pression. Et peut-être qu'aussi, le fait de re-signer, peut aider à attirer d'autres joueurs puisqu'ils vont avoir une sécurité sur quelques années. Est-ce que toi, Ben, pareil, tu penses que c'est l'option la plus raisonnable si on s'appelle Giannis Antetokounmpo?
Si je suis Giannis. Alors déjà, je suis content d'être né avec de telles capacités athlétiques.
Les bras télé.
Ouais, je suis super content. Et ouais, je pense que Tom a raison, en fait. Là, les Américains aiment bien utiliser le terme de leverage. C'est toute une question, en fait, de marge de manœuvre. Et en vrai, oui, t'as aucune mettre de la pression. J'aime pas cette espèce de qui existe chez beaucoup de fans NBA en fait de sacrifice humain du joueur. Ah, il devrait re-signer pour montrer sa fidélité. Non, en fait, utilise, c'est du business comme l'a dit Tom. Même si je vais pas lire toutes mes notes, mais Mark Cuban explique souvent qu'en fait, contrairement à un business, il y a de l'émotionnel.
Ouais, c'est ça. Et oui.
Il disait par exemple.
Il avait bien expliqué.
Disait par exemple quand Amazon détruit le plafond des stocks de Wall Street, il y a pas de parade. Quand les Mavericks gagnent un titre, il y a une parade. Tu vois, là, il y a l'émotionnel. Mais oui, bien sûr, Giannis attend et garde toutes tes options ouvertes. En fait. Surtout que Tom l'a dit. Enfin, Tom a dit ce que j'ai dit. Un top 5 NBA, ça arrive pas souvent. Donc tout le monde va se plier en quatre pour l'avoir. Donc qui garde cette option, tout simplement.
Eh ben alors je vais tordre encore un peu la question parce que je suis assez d'accord avec vous sur le cas Giannis. Je pense que c'est le choix le plus logique. Si on n'est pas Giannis, si on n'est pas un top 5 NBA, si on est un free agent qui peut être titulaire dans une équipe compétitive, actuellement là, en 2020-2021, quelles sont les équipes qui sont...
Lakers.
Voilà. Non, mais,
c'est bon, la fin de la liste.
C'est la fin de la liste. Ah, c'est quand même un peu dur. Mais voilà, quelles sont... Enfin, en tout cas, peut-être en diviser, peut-être pas citer les 30, encore que si vous voulez, on peut prendre un peu de temps, mais quelles sont les équipes qui sont plutôt hautes, plutôt moyenne, enfin selon le profil qu'on a, parce que selon l'âge aussi qu'on peut avoir, si on est par exemple un Chris Paul, c'est pas la même chose que si on est Oladipo par exemple, très très bonne idée, ou Montrezl Harrell, bon, qui vient de signer, mais là c'était aussi intéressant. Enfin voilà, il y a différents profils. Quelles sont quels sont les différents types d'équipes qui ont le vent en poupe selon le projet, selon vous, en 2020, 2021, peut-être 2022, on peut quand même se projeter sur 2-3 ans quand même.
Moi, je pense Dallas. Hein. Je pense Dallas a quand même le vent en poupe puisqu'ils ont un top 5 NBA déjà, enfin quasi, qui pourrait être un top 5 NBA à la fin de l'année. Hein, qui, enfin, Luka Doncic, qui est encore sous contrat rookie.
Tu aurais dit, tu aurais dû dire sa place dans le DH20, Tom. C'est le contrat.
Il est quoi? Il est huitième dans le DH20.
Ouais. Doncic, moi, je l'ai 6, mais
il est juste, je crois qu'il est juste devant, il est juste derrière Harden et juste derrière Butler. Il est juste derrière Harden et juste devant Butler.
Et ouais. Enfin, il est même, ça dépend, enfin, bref, ça dépend de façon on calcule la moyenne, voilà. N'hésitez pas à écouter le DH20. Voilà.
Et, bah, du coup, t'as Luka Doncic qui est déjà en poste, t'as Kristaps Porzingis qui est aussi déjà en poste. Et je pense que la façon dont Rick Carlisle joue, si par exemple tu es un petit, quand tu vois ce que Rick Carlisle a pu faire avec des gars comme Seth Curry, des gars comme Barea, des gars comme Trey Burke, des gars comme enfin et j'en passe hein, tous les petits entre guillemets qui ont été à Dallas, il a su les magnifier. Donc si tu es un joueur comme Victor Oladipo, ça peut être bien d'aller moi à Dallas. Dallas est plus préoccupé par Giannis. Miami aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant, même si moi je trouve que le côté hit culture, c'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'a pas sa place dans ça. Et là où certains joueurs vont totalement briller, totalement apprécier le côté culture et le côté vraiment ancrage Miami, fort équipe. Il y a certains joueurs, ils veulent pas se réveiller à 6h du matin pour. il y a certains joueurs, c'est pas.
Surtout
c'est
quand t'habites à Miami,
en plus. Voilà, c'est ça. Il y a certains joueurs, c'est pas fait pour eux ce style-là, tu vois. Donc je pense que tu vois Miami. Je pense que en termes de notion de sacrifice, il y a quelque chose de plus que tu dois avoir en toi, en fait. C'est pas simplement le marché. Enfin, en termes d'équipe, il y a vraiment un mindset vraiment à avoir si tu veux aller et fitter dans cette équipe-là.
Ouais, donc là, on est sur des équipes sur les 3-4 prochaines années. On est quand même sur un projet moyen terme. Est-ce que tu en as d'autres à rajouter? Donc, hors Lakers, Ben, évidemment.
Alors moi, en fait, vu que dans ma... Tu vois, d'une façon dont je classe les équipes, il y a ça qui est pris en compte. Moi, pour moi, je descends jusqu'à l'idée de grande puissance NBA. En gros, juste pour moi, quand tu descends en dessous, moyenne, je prends l'exemple d'Indiana, ils ont pas cette capacité d'attraction. En gros, si je prends les équipes que j'ai Lakers tout en haut, j'ai Clippers, Nets... Ensuite, j'ai Heat, Celtics, 76ers, Rockets, Mavericks, Warriors. Et j'ai mis parenthèse Milwaukee parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Selon moi, c'est les équipes qui ont le pouvoir d'attraction pour un mec. Parce que tu sais qu'avec ces équipes-là, en gros, tu es deuxième tour des playoffs, voire tu peux être en finale de conf, en fait, selon ce qu'on veut dire. Pour moi, je surcote peut-être un peu les Warriors sur ce qu'ils ont fait récemment. Et pour moi, si tu as un mec, un bon titulaire, voilà, c'est ces équipes-là, t'en as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'en as 9, voilà, qui sortent du lot. Tu vois. C'est, parce qu'en fait, tu vas jouer le titre. Tu es sur des marchés, pour la plupart, qui sont plutôt intéressants. Quand je parle encore une fois de taille, etc. Le cadre de vie, etc. Tout rentre en compte pour que ça soit des bonnes destinations.
Oui, parce qu'en plus, quand t'es un role player, il y a, bon, effectivement, cette compétitivité qui est intéressante, mais selon le cas, ça peut être aussi, tu veux te montrer une nouvelle fois, parce qu'il y a des contrats à aller chercher derrière qui peuvent être plus importants. Tu peux te relancer, on pense c'était il y a quelques années, maintenant, ça va être compliqué.
Rondo.
Voilà, Dwight Rondo, il y a eu Cousins un peu avant. Bon, malheureusement pour lui, ça s'est très mal passé, mais l'idée de sa signature à Golden State était totalement dans cette logique-là. Donc, il y a différents. Et puis, si t'es un peu plus vieux, peut-être refaire remonter ta cote, comme a pu le faire Chris Paul dernièrement, et puis qui est maintenant un chouchou de la NBA, grand bien lui en face, tant mieux pour lui, effectivement. Donc, effectivement, je pense que j'aurais pas grand-chose à rajouter. Après, ouais, je trouve que finalement Miami, tu l'as bien dit, Tom, c'est vraiment une situation à part entière. C'est vraiment, pour moi, ils sont vraiment à part parce qu'on est dans un marché finalement pas si grand. Comme tu as dit, il y a une culture sportive qui a l'air assez ancrée justement de par le front office et le propriétaire.
C'est hein, ça.
Tout tourne autour de ce cher Pat Riley. Et puis avec un contraste avec cette ville un peu de la luxure, du bling bling, etc., qui rend un peu Miami un peu à part du reste.
Il y a même, je pense que tu peux même faire une frontière entre, pour un joueur, est-ce qu'il faut le regarder s'il est marié ou pas, tu vois, parce qu'un mec, je pense qu'un mec marié, tu vois, madame est pas fan s'il va à Miami, tu vois, je pense de base. Là où, tu vois, je pense qu'il faut rappeler juste la stat, c'est que, en termes de marché télévisuel, dont on parle, Miami est 16e. Miami, c'est derrière Minneapolis, les gars, en termes, concrètement. C'est là où Miami sort un peu du cadre. enfin, faisait partie des équipes que c'est difficile à classer Miami, mais voilà. Enfin, moi, je trouve ça juste intéressant, voilà. Arrêtez de parler de gros, de petits marchés, juste réfléchissez que, tout simplement, voilà. Washington, c'est quoi, tu vois, par exemple? Washington, c'est quoi?
Pour moi, Washington, ce serait du même niveau que Chicago, puisque certes, peut-être sportivement, c'est pas, mais c'est quand même la capitale.
C'est ça,
c'est la capitale.
D'un point de vue télévisuel.
Il n'y a pas le prestige historique, quand même, à Washington.
Oui.
Ouais, mais pour moi, tu vois, ils sont, actuellement, je les ai mis dans le même groupe, dans mes groupes qui bougent, ils sont dans le même groupe, en fait, parce que oui, Washington, septième marché télévisuel, mais la ville, c'est celle des,
C'est la politique.
C'est voilà. Politique, c'est la ville du football américain, c'est pas la ville des Wizards, en fait. Puis, non, alors, le front office, là, on a quand même eu des belles choses, donc, tu vois, enfin, bref, c'est pour ça, l'attractivité, ça évolue, tu vois. C'est pour ça que ces concepts de gros marchés, etc., ils sont inscrits dans le marbre, et ça, tu vois. Par exemple, si, encore une fois, je suis désolé, hein, je reprends mes trucs, tu peux pas mettre les Knicks en l'état au même niveau que les Celtics, que les Rockets, que les Mavericks, c'est inconcevable de faire ça. Enfin, parce que vu la franchise que c'est, ce n'est pas possible.
Par exemple, les Knicks n'ont même pas attiré Kemba, tu vois.
Exactement.
Kemba qui est.
Parce que le costume est trop grand pour un Kemba Walker.
Non, je pense vraiment que. Je pense, moi, c'est mais vraiment.
C'est chez lui. Ouais, c'est chez lui. Après, sportivement, je pense qu'il a fait le choix de Boston, puisque sportivement, il voulait autre chose. Alors, oui, on va rétablir une vérité par rapport aux Hornets. Les Hornets n'ont pas refusé de payer Kemba Walker. Les Hornets ont proposé 177 millions sur 5 ans à Kemba Walker, offre jugée déplacée parce que le joueur était éligible à 220.
On n'est pas sur la même échelle de salaire. On vit pas tous la même chose. Mais effectivement, mais je pense que New York aussi est un cas très particulier parce que là, on a, tu parlais de rentrer à la maison, etc. Melo s'y est cassé les dents. Après il a sa part de responsabilité, mais le fait est qu'il s'y est cassé les dents et c'est très dur maintenant de se dire je vais arriver à New York. Si t'arrives à New York et que t'es une superstar, ce qu'on te demande c'est de remettre New York tout en haut. Et là moi je pense que la signature de Durant au Nets prouve bien que ça va être compliqué, c'est pas de sitôt que ça se fera par une signature d'un top NBA qui va vouloir y aller, parce que à part LeBron qui peut faire ça, qui peut faire ce type de choix, c'est très compliqué.
Là où je suis moyennement d'accord, c'est qu'en fait, il choisit les Nets parce que les Nets, ça fait 5 ans qu'ils sont bien gérés, qu'ils ont un bon GM, que la franchise est prête à mettre de l'argent. Enfin, il se passe plein de trucs, en fait. Là où les Knicks, oui, il faut remettre New York sur la carte, mais quoi, avec James Dolan qui vire des anciennes.
Mais justement, c'est trop dur, peut-être. Ça rentre dans la balance.
Je pense que proprio. Si t'arrives avec un proprio, même pas bon, hein, je dis juste normal, c'est mon niveau d'attente à l'heure actuelle, un front office carré, un effectif même jeune, les mecs se pressent pour aller à New York. C'est juste que c'est juste un foutoir total. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord avec l'argument de la pression est trop haute. Aller aux Lakers, c'est pas non plus c'est pas une sinécure. Enfin, même aller à Boston, c'est difficile.
Ah non, mais la pression
était
folle sur LeBron là. Là, il avait intérêt à gagner dans les quelques années, hein. S'il le fait pas, ça allait entacher grandement son héritage dans l'histoire de la NBA.
Puis oui, je t'en prie, Tom.
Non, parce que même regarde par exemple tu viens de parler de Dolan du proprio. Regarde par exemple Clay Bennett qui est le propriétaire d'OKC. Le mec, on le connaît pas. Mais si, lui, tu vois, ce mec, le proprio, là, tu penses que Presti, là, les moves qu'il fait, il a pas une assurance derrière? Il a pas une assurance derrière? Le Clébinette, il a bien compris. OKC est devenu OKC parce que ils ont eu des hauts choix de draft. Presti, qui est l'homme au pouvoir, a fait les bons choix au bon moment pour drafter les joueurs. Bon, après, il y a eu le transfert d'Arden, mais chose aussi qu'on oublie, certes, il y a eu, l'année où ils font le transfert d'Arden, c'est leur meilleure année juste après. Comme Ben l'a rappelé lorsqu'il a fait son classement des plus grosses puissances, c'est leur meilleure année juste après. C'est juste que Pat Beverly pète le genou de Westbrook et ils se font sortir. Mais c'était probablement la meilleure équipe de Casey statistiquement entre guillemets sur la saison régulière. Donc ça, si peut-être qu'il gagnait le titre cette année-là, on en parlerait moins du trade d'Arden, même si bon, Arden est devenu le joueur qu'il est devenu. Mais tu vois, Bennett, il a compris la stratégie. Ok, on prend des contrats, on paie la taxe, machin, t'inquiète pas, je sais que j'ai confiance en toi, tu vas pouvoir transférer les joueurs. Le propriétaire de Casey, tu n'entends pas parler de lui. Tu sais même pas qui c'est. Bennett, tu sais même pas qui c'est.
Mais justement, est-ce que cette notion de sécurité, elle est intéressante, parce que tu me fais penser à ça, c'est est-ce qu'un des problèmes de New York, c'est pas de la sur-sécurité? C'est qu'ils font tellement d'argent qu'ils ont balancé. Ça fait des années qu'ils balancent.
T'as pas besoin
des joueurs qui le méritent pas. Ils ont pas besoin de bien gérer, entre guillemets.
Les gars, les Knicks, ils remplissent le Garden à 95% l'année dernière. Vous voyez ce qu'ils font depuis 10 ans. Ils remplissent toujours, en fait. Donc, voilà, ouais, ils ont, en fait, il y a double, il y a sécurité de faire de l'argent, insécurité des postes. C'est pas le bon mariage. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Tom. On peut prendre aussi l'exemple de feu Paul Allen à Portland, qui balançait tout, en fait. Qui mettait de l'argent partout. Portland, moi, je les ai mis dans moyenne puissance. Portland, c'est pas énorme. Mais le mec balance tout, en fait. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux? Et la question philosophique, vaut pas mieux être à Portland si le mec balance tout? Qu'à honnête, s'il te met des limites.
Ou Houston,
Houston
avec Chicago qui refuse, ou Chicago par exemple, tu vois. Exactement.
Surtout que dans l'économie, et moi c'est un truc que j'aime bien mettre en avant, dans l'économie de 2020, c'est pour ça l'idée de marché par rapport aux médias était mise en place par rapport à la télévision à une époque où tu faisais ton argent hors terrain avec la télévision. Le problème, les gars, c'est que
c'est plus ça.
LeBron, il signe son contrat à 1 milliard en 2016, il est à Cleveland. On va me dire, oui, c'est LeBron James. OK. Kevin Durant signe son contrat à 300 millions sur 10 ans, il est à OKC. Oui, c'est Kevin Durant. Giannis est quatrième en termes de revenus hors basket, il est à Milwaukee, les gars. Et on va me dire, ouais, c'est Giannis. OK, Zion est sixième, il joue à New Orleans, c'est un rookie.
Je dis, ouais, mais c'est Zion.
Russell Westbrook était cinquième de ce classement, il était à OKC. Je veux dire, les mecs font de l'argent où qu'ils soient. Donc...
Mais limite, tu vois, ça permet aussi de recentraliser le débat en termes de personnes, en termes d'affaires, parce que tu vois, Kevin Durant, on sait qu'il a pas mal d'affaires avec Rich Claymont, qui sont à New York aussi. Et tu vois, au bout d'un moment, en termes de business, le basket, c'est ce qu'ils font pour vivre, mais ils ont pas besoin de ça pour vivre, puisqu'ils génèrent tellement autour de ça, tu vois. Ils génèrent tellement autour de ça que limite, ça devient secondaire, et tu vois, tu peux avoir des choix où le mec, il va faire du basket, entre guillemets, pour s'amuser, parce que c'est sa passion, son plaisir, mais ailleurs, tu vois, c'est pas vraiment ce qui le rémunère, en fait.
Mmh. Oui, puis
t'arrives à des stades où c'est pas ça, ouais.
Ouais, non, mais ça me fait penser à cette notion de culture, parce que là, on parle des gros marchés qui font, où tu vois, les joueurs qui fluctuent, qui bougent, etc., où tu rechanges une équipe, tu payes des gars, et puis on recommence. Et cette notion de culture qu'on évoquait un peu avec Miami, mais qui est peut-être aussi un des avantages, entre guillemets, en tout cas de quelque chose qui vient contrebalancer les défauts d'un petit marché, c'est que tu es obligé de construire un peu sur la durée. Il y a des gars qui sont là, et je crois que c'était une déclat de Donovan Mitchell quand il y a quelques années, où on lui avait posé la question, est-ce que vous irez dans un gros marché, et qui disait, moi j'estime qu'on peut gagner dans un petit marché parce que nous on se crée une culture de vestiaire et on est ensemble, et il y a une solidarité sur quelques années. On a un projet où va y avoir un noyau dur de joueurs qui va se dire, allez, maintenant qu'on y est, on va continuer. Et c'est le cas notamment aussi à Portland, là, par exemple, où t'en parlais, où Lillard s'est fait un point d'honneur à essayer d'aller le plus haut possible, en tout cas pour le moment, en restant à Portland.
Lillard, top 10, après, top 10 des mecs qui font de l'argent hors terrain, Portland. Enfin, les exemples, si vous voulez, je les ai, enfin, il y en a plein, quoi.
Après, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose, on a parlé de la longueur des contrats, ça va être plus difficile. Avant, quand tu signais des mecs sur 7 ans, tu savais que t'avais de la longueur avec le gars. Le gars, il a, même s'il demandait son transfert, tu vois, t'as 7 ans de contrat, tu vas pas demander ton transfert en année 2, 3, où tu vas pas mettre la pression sur le front office, parce que t'es même pas à la moitié de ton contrat. Là où aujourd'hui, les propriétaires ont voulu, pour se préserver d'eux-mêmes, des contrats plus courts, mais du coup, les contrats plus courts, ça a été déjoué contre eux, puisque les contrats sont plus courts, les joueurs gagnent plus, et du coup, ils peuvent plus facilement quitter la franchise.
Avoir et
t'as une
d'ailleurs.
Pression sur ton, voilà, et t'as une pression plus rapide sur ton organisation pour pouvoir faire des moves, puisque là, on va voir les prochains tests là, avec Karl Anthony Towns et Devin Booker. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque les gars là, ils ont signé sur 5 ans, mais si par exemple t'as quelqu'un qui a signé pour ce qui s'est passé par exemple avec Gordon Hayward à Utah quand il est parti à Boston. Gordon Hayward à Utah lui a demandé d'aller chercher un contrat ailleurs au lieu de lui proposer une prolongation de 5 ans directement à sa sortie de contrat rookie. Il est allé voir Charlotte. Charlotte lui a donné un 3+1. Ben, ce qui s'est passé, c'est que après 3 ans, Gordon Hayward, il a pris son option, il est parti à Boston.
Après, on sait.
C'était un risque.
Je pense qu'il y a quand même des franchises où c'est, je répète, Utah a le temps, en fait. Utah, elle tend, je trouve qu'il y a des franchises qui ont, et c'est pour ça, la notion petit marché, gros marché, il y a des franchises, il s'est créé un tel attachement, je pense à OKC, je pense à San Antonio, où elles ont un temps supérieur à certains gros marchés, en fait. Donc, l'idée selon laquelle ils n'ont pas le temps, elle est, ça, c'est du cas par cas, tu vois. Les Lakers n'ont pas le temps. Je pense qu'Indiana a le temps, tu vois. Il y a des franchises, voilà, c'est, ça vient du proprio, etc. Enfin, bref. Il y a beaucoup de points qui font que non, en fait, abandonner gros marché, petit marché. Le dernier exemple pour moi qui prouve qu'il y a plein de paramètres, Denver, pour moi, c'est potentiellement une des meilleures reconstructions de ces dernières années. Enfin, ils sont partis de fin de Melo à on est en finale de conf, on est une grosse franchise. Ils entament leur reconstruction en 2013, en gros. Après 10 ans de George Clark, ils prennent Brian Shaw, ça marche pas, etc. Bref, en 2013, il se passe un truc à Denver, c'est qu'en football américain, Peyton Manning arrive. Et en gros, la franchise devient une franchise dominante de football américain. C'est beaucoup plus facile de faire passer une reconstruction dans une ville quand t'as l'autre franchise qui pète tout au football américain et pendant le temps, tu reconstruis et ah, tiens, Peyton Manning part, ah bah on est de retour en playoff, les gars. En gros, les fans de football américain vont me corriger, ça se joue à 1 ou 2 ans, je crois. Mais en gros, c'est ça l'idée. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Donc, t'as plein de paramètres qui se résument pas à ah, on prend une carte, ils ont 15 millions d'habitants, oh là là, on peut rien faire. Non, c'est plus compliqué.
C'est ça. Et puis après, pour sans te couper, Adrien, après c'est simplement pour revenir sur la partie reconstruction. Il y a aussi un idéal des fans qui veulent que la reconstruction se fasse avec des joueurs. T'as l'impression que t'es dans Football Manager et tu dois gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs formés au club.
Il ouais, y a un biais de jeunesse chez les fans.
C'est ça. Il y a un biais où pour qu'une reconstruction soit dite valable, il faut que ce soit fait avec les joueurs qui ont été draftés, des trades, pas d'agent libre qui soit titulaire.
De la maison, vision qu'il y a eu, on les a vus arriver, on a vu les bons potentiels, ils sont deux chez nous, on les a fait monter. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit, ça s'illustre parfaitement. Alors, petit parallèle, ça s'illustre parfaitement sur NBA 2K. Chaque année, les fans créent les classes de draft des années qui arrivent en se disant, bah voilà, l'année prochaine, il y aura tel joueur. Par exemple, pour l'année prochaine, Kate Cunningham, etc. Et bien, chaque année, le potentiel des joueurs sont toujours très élevés parce que les mecs sont tellement fans, ont envie d'avoir que ce gars-là, il va exploser qu'au bout de, si tu fais plusieurs saisons dans NBA 2K en téléchargeant les classes de draft faites par les fans, bah c'est toujours les rookies des quelques années qui vont devenir les meilleurs joueurs, toujours, ouais, à chaque fois.
Je pense que je m'impose pas à présentateur, mais il y a un truc pour finir, je pense que c'est le point super important, c'est John Odinger qu'on cite souvent, qui travaille pour The Athletic, qui était un ancien de Memphis, qui disait, dans un de ses articles, il y a une phrase qui passe souvent dans les front office NBA, « You are either selling championship or selling hope ». Soit tu vends un titre, soit tu vends de l'espoir. Voilà, c'est ça.
C'est ça, simplement. Exactement, ouais.
Bah très bien, bah c'est parfait. Voilà, tu t'imposes pas, mais tu imposes une conclusion parfaite. C'est bien, parce qu'il fallait qu'on arrive au bout. On a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui englobait pas mal d'autres. C'est une discussion qui pourrait continuer encore un bon moment, j'imagine. D'ailleurs, donc merci à tous nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Ouais. N'hésitez pas à continuer la discussion avec nous également, pourquoi
sur
pas.
Sur YouTube.
Bien plaisir. Notamment, j'y arrive, bien sûr. On va se retrouver très vite. On est disponible donc en podcast sur toutes les plateformes, vous le savez maintenant. On est sur Twitter, @dunkhebdo. Et maintenant, sur YouTube également, avec des petits bonus pour nos spectateurs. On espère d'ailleurs que les spectateurs visagistes seront un peu tolérants, puisqu'on n'a pas notre égérie visuelle Alan, qui n'est pas là juste pour lui souhaiter un bon rétablissement quand même. S'il a eu un petit souci cette semaine, rien de grave, rassurez-vous. Mais on pense à lui. Et donc, eh bien pour les prochains épisodes, on va devoir probablement rentrer dans le vif du sujet de cette saison quand même, qui nous attend en fin décembre. Et bah, d'ici là, et bah, merci à tout le monde. On vous souhaite une excellente semaine à tous. Et merci à vous, les gars.
Merci à toi. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.